VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 9 août 2017. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
Au Kenya, l'opposition rejette les résultats provisoires de la présidentielle.
En République démocratique du Congo, Kinshasa au ralenti hier à l'occasion de la première des deux journées ville morte appelée par l'opposition.
Le président Trump promet le feu à la Corée du Nord si elle poursuit ses menaces contre les États-Unis. Pyongyang menace à son tour de frapper les bases américaines sur l'île de Guam.
L'ONU dénonce le recours à la force au Venezuela tandis que 12 pays d'Amérique condamnent une rupture de l'ordre démocratique.
En Chine, bilan provisoire du tremblement de terre dans la province de Sichuan, au moins 13 morts et 175 blessés.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le chef de file de l'opposition au Kenya, Raila Odinga, a rejeté les résultats provisoires de l'élection publiée mardi soir par la commission électorale et qui attribue au président sortant, Uhuru Kenyatta, 55% des suffrages. « Ils sont fictifs, ils sont faux », a-t-il dit lors d'une conférence de presse, ajoutant que la commission électorale n'a pas respecté l'obligation de fournir les formulaires de certification des résultats signés par des observateurs des partis dans chaque bureau de vote. La commission électorale a publié un décompte partiel portant sur près de trois quarts des bureaux de vote, des comptes qui créditent d'une avance confortable le président sortant, Uhuru Kenyatta, avec 55% des voix, contre 44% pour Raila Odinga.
En République démocratique du Congo, une cinquantaine de responsables présumés des violences qui ont fait au moins 12 morts lundi à Kinshasa sont aux mains de la police. Le point avec Eddy Sango.
Une cinquantaine de personnes accusées de violences de lundi étaient visibles à la cour de l'inspection de la police à Kinshasa, pieds nus, assis sur des chaises en plastique sous la surveillance des policiers en uniforme. Ces individus sont présentés comme les fauteurs de troubles lundi qui ont fait au moins 12 morts. Certains portaient un béret rouge ou un bandeau rouge autour de la tête. Parmi eux, trois femmes. Fétiches et autres bâtons sont déposés à même les sols avec des posters à l'effigie de Nemwanda Nsemi, gourou du mouvement Bundudia Congo. La secte réclame le départ du président Joseph Kabila, maintenu au pouvoir après expiration de son mandat. Hier mardi, l'activité tournait au ralenti à Kinshasa pour la première des deux journées ville morte appelées par l'opposition qui exige la publication d'un calendrier électoral et le départ du président Kabila.
En République centrafricaine, de violents combats ont fait au moins trois morts à Gambo, dans le sud du pays, parmi les membres de la Croix-Rouge. Précision de John Linden.
Les combats ont eu lieu il y a quelques jours à Gambo, dont loin de Bangassou, à l'est de Bangui. Selon le président de la Croix-Rouge centrafricaine Antoine Bao Bogo, le président local, le trésorier et plusieurs volontaires ont été tués. Il dit ne pas avoir le nombre exact de personnes tuées, mais déplore le décès de plusieurs membres de son organisation au centre de santé de la ville. Ces combats ont opposé des milices dites d'autodéfense à des membres du groupe armé Unité du peuple centrafricain, faction de l'ex-rébellion Séléka. Un décompte de l'Agence humanitaire des Nations Unies fait également état depuis juillet de 24 morts à Badangafo et une dizaine à Lindao. D'autres combats ont été signalés en Ngaoundaï, à la frontière avec le Cameroun et le Tchad, qui ont fait au moins une dizaine de morts et forcé près de 7000 personnes à fuir.
En Côte d'Ivoire, après avoir agressé des policiers, 20 personnes se sont évadées hier du palais de justice d'Abidjan, en plein centre-ville de la capitale économique ivoirienne. Le point avec Solange Niamoulissa.
Le procureur Richard Christophe Adou a déclaré que 10 détenus et 10 déférés se sont évadés vers 11h hier matin. Il a dit que les détenus de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, déférés au palais de justice, ont agressé des agents de police, ce qui a permis l'évasion de 20 personnes. Il a précisé qu'il s'agit bel et bien d'une évasion et non d'une attaque. Mais selon une source judiciaire, l'évasion a été organisée par un commando d'hommes armés qui se sont introduits dans le palais de justice. Dimanche, 5 prisonniers se sont évadés de la prison de Gagnoa dans le centre du pays. Selon le maire de la ville, Bamba Medji, 4 gardes pénitentiaires et un civil ont été arrêtés, soupçonnés de complicité. Depuis les débuts de l'année, il y a eu des séries de mutineries dans l'armée ivoirienne ainsi que des attaques contre des postes de police et de gendarmerie.
Au Burkina Faso, les chauffeurs routiers comptent aller de nouveau en grève dès ce mercredi. Cette fois-ci, c'est pour protester contre des propos du ministre de la Sécurité, Simon Compaoré. Ce dernier a défendu les éléments des forces de l'ordre qui, la semaine dernière, ont bastonné des chauffeurs. Au micro de Bagassi Koura, Mohamed Lamine Ouedraogo, porte-parole de l'Union des chauffeurs routiers.
La semaine passée, il y avait eu des accords où il fallait payer les taxes. Introduit par le mois. L'Union des chauffeurs routiers d'Abidjan a pris un accord, donc signé les accords, et maintenant ça devait prendre effet après le 31 juillet. Donc, l'Union des chauffeurs routiers burkinabés ne sont pas opposés, mais ils ont dit que le fait que les chauffeurs aient effectué le voyage, aller sans prendre les taxes avec les propriétaires des véhicules, il est très difficile d'avoir de l'argent au retour pour payer ces taxes. Donc, c'est dans ce refus-là qu'il y a eu maintenant un affrontement entre les forces de l'ordre et les chauffeurs. Le ministère des Transports est rentré en contact avec les chauffeurs. Ils sont tombés d'accord maintenant de l'application de la taxe le 1er septembre. Donc, ça, c'était rentré dans l'ordre. Maintenant, les chauffeurs ont demandé qu'on passe la lumière sur le bavure commis par les forces de l'ordre. Maintenant, le ministre est sorti sur les zones hier, dit qu'il n'y aura rien, que les forces de l'ordre n'ont qu'à se rassurer, que rien ne peut leur arriver. Que même devant les tribunaux, rien ne peut arriver à ces forces de l'ordre.
Mohamed Lamine Ouedraogo, porte-parole de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina Faso.
En Guinée-Bissau, les fonctionnaires ont, eux, entamé hier une grève de 3 jours pour réclamer une augmentation du salaire minimum et le paiement d'arriérés de salaire. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'Union nationale des travailleurs de Guinée-Bissau réclame une hausse du salaire minimum de 19 200 à 59 000 francs CFA et le paiement d'arriérés de salaire depuis 2003. À Bissau, la capitale, les ministères et autres services publics ont été fermés, sauf le principal hôpital où un service minimum a été observé. Selon le ministre des Finances, Aladji Joao Amadou Fadia, cette grève n'a pas sa raison d'être parce que le budget de l'État n'a pas encore été voté par l'Assemblée nationale. Il a ajouté que les responsables syndicaux sont au courant des efforts du gouvernement pour satisfaire leurs revendications. Julio Mendoza de l'UNTG rejette cet argument et estime que l'exécutif n'a pas tenu parole. Les travaux à l'Assemblée nationale sont bloqués depuis plus d'un an à cause des divergences entre le président José Mario Vaz et le PAIGC.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Donald Trump a lancé une mise en garde spectaculaire à la Corée du Nord, déclarant que si Pyongyang continuait ses menaces contre les États-Unis, elle se heurterait au feu et à la colère d'une ampleur que le monde n'a jamais vue jusqu'ici. M. Trump a ajouté que le leader nord-coréen Kim Jong-un avait un comportement très menaçant depuis que les États-Unis ont augmenté leurs sanctions contre Pyongyang et obtenu un vote unanime du Conseil de sécurité des Nations Unies imposant des mesures punitives contre le régime nord-coréen.
Auparavant, les médias américains avaient révélé que Pyongyang avait réussi à miniaturiser des têtes nucléaires pour les missiles intercontinentaux récemment testés. Peu après les propos de M. Trump, la Corée du Nord a publié un communiqué menaçant d'attaquer les bases américaines sur Guam. Mais selon les analystes, il semble avoir été préparé ce communiqué avant la mise en garde du président américain.
Le Venezuela a reçu mardi un coup de semonce de l'ONU, dénonçant un usage excessif de la force lors des manifestations hostiles au président Nicolas Maduro et de 12 pays d'Amérique condamnant une rupture de l'ordre démocratique. Réunis à Lima, ces 12 pays d'Amérique, parmi les plus importants, Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexique, Panama, Paraguay et Pérou, ont fait part de leur décision de ne pas reconnaître l'Assemblée constituante voulue par le dirigeant vénézuélien et qui vient d'être élu, ni les décisions qu'elle pourrait prendre.
Le ministre des Affaires étrangères d'Haïti, Antonio Rodrigue, a salué hier à Montréal les efforts des autorités canadiennes pour accueillir les réfugiés haïtiens venus des États-Unis et sachant que leur retour sur l'île poserait des difficultés.
En Chine, le séisme de magnitude de 6,5 qui a frappé la province du Sichuan dans le sud-ouest du pays a fait au moins 13 morts et 175 blessés. C'est ce qui ressort d'un bilan provisoire diffusé ce matin et les autorités disent redouter jusqu'à une centaine de morts, des milliers de blessés et plus de 130 000 habitations endommagées. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Jacques Aristide.
La Côte d'Ivoire veut abriter le 18e forum de l'AGWA à Abidjan. Son ministre du Commerce a formulé cette demande hier à Lomé lors du présent sommet. Pour Souleymane Diarra-Souba, cet événement sera une occasion pour son pays de renforcer sa position de leader sur le continent africain vis-à-vis du partenaire américain et également donner une opportunité accrue aux entrepreneurs et artisans ivoiriens de tirer un meilleur profit du marché américain. Plusieurs pays pétroliers, dont en Afrique, comme la Libye, le Nigeria et le Gabon, ont promis de respecter des réductions de leur production pour stimuler une remontée des prix du baril. C'était lors d'une réunion hier à Abu Dhabi. L'OPEP et d'autres pays partenaires ont décidé fin l'année dernière de réduire leurs extractions jusqu'en mars 2018 pour limiter l'offre sur le marché mondial. Toutefois, la surproduction de certains pays a laissé émerger des doutes sur cet objectif. Le rand sud-africain s'est déprécié de plus d'1% face au dollar à l'annonce hier soir du rejet par le Parlement de la motion de défiance contre le président sud-africain Jacob Zuma. Les investisseurs estiment qu'il est une charge sur l'économie sud-africaine qui a replongé dans la récession avec un taux de chômage de 27,7% sans précédent depuis 14 ans.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
L'Afrique encore à l'honneur au Mondiaux d'athlétisme à Londres.
Et oui, le Kenya deuxième au classement des médailles avec 3 médailles d'or. L'Afrique du Sud désormais troisième avec 2 médailles d'or. Les Américains eux sont toujours premiers, cette fois avec 11 médailles d'or. Nouveau feu d'artifice hier soir sur la piste, notamment pour les Kenyans. Conseslus Kipruto a remporté la finale du 3000 mètres steeple en 8 minutes 14 secondes et 12 centièmes. Champion olympique en titre, le Kenyan a remporté son épreuve devant le Marocain Soufiane El Bakali et l'Américain Evan Jagger. Sur 400 mètres, le champion olympique sud-africain Van Niekerk a répondu présent. Il s'impose en 43 secondes 98 centièmes. À noter que l'ivoirienne Marie-Josée Talou a remporté sa série du 200 mètres en 22 secondes 70.
Le Real Madrid remporte son premier trophée de la saison.
Oui, le Real Madrid, tenant du titre, a remporté la Supercoupe d'Europe en battant Manchester United 2-1 hier soir à Skopje en Macédoine. Casemiro a ouvert le score dès la 24e minute de jeu et son coéquipier Isco a alourdi le score au retour des vestiaires. La réduction du score pour les Red Devils intervient grâce à Romelu Lukaku à la 62e minute de jeu. Mais ça n'a pas suffi, c'est le premier trophée du Real de la saison. Et encore un trophée pour Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo.
Issa Hayatou tacle son successeur.
Profitant d'une audience avec le ministre des Sports camerounais, l'ancien président de la Confédération africaine de football s'est dit surpris des déclarations de l'actuel président de la CAF, M. Armat, sur l'incapacité actuelle du Cameroun à organiser cet événement sportif. On écoute tout de suite Issa Hayatou.
Moi, comme n'importe qui de bon sens, ne peut que regretter ce qui a été dit. Parce qu'il faut d'abord venir constater avant de sortir ce qu'il a sorti. À l'heure actuelle, le Cameroun a déjà 5 stades. Il y a 5 stades au Cameroun. On ne parle pas de ce qu'on est en train de construire. On pouvait organiser cette CAN même à ces 5 stades-là. Ils sont là, physiques. Donc 3 ultra neufs et 2 à reconfectionner. Le stade de Douala et le stade de Garoua. Mais les autres, que ce soit Limbé, que ce soit Bafoussam ou le stade Amadou Ahidjo ici, c'est des stades tout neufs. Personne ne peut dire que le Cameroun n'a rien. C'est pas possible. On peut compter combien de pays en Afrique qui ont ce que nous avons là. Faut pas vous leurrer. Nous sommes en avance. Et d'autre part, on ne peut pas dire que la CAF va retirer parce que quand on a eu à retirer les coupes aux gens, c'est eux qui n'ont rien fait. Par exemple, quand on a retiré à Madagascar, c'était au mois de janvier pour une compétition qui doit se dérouler au mois de mai. Donc 4 mois avant, il n'y a même pas d'inspection. On dit qu'il n'y a rien. Moi, je suis particulièrement vraiment surpris, connaissant les rouages de la CAF. Bon, il n'est pas obligé de faire ce que j'ai toujours fait pendant 29 ans, mais il est au moins obligé de rester près de la logique et de la loi.
Voilà, c'était Issa Yatou au micro de nos confrères de CRTV.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a encore survécu à une motion de défiance de l'opposition, malgré les scandales de corruption, la récession et le taux de chômage record dans le pays. La dernière motion en date a été rejetée hier par le Parlement, bien que le vote ait eu lieu à bulletin secret. Eric Manirakiza a joint l'analyste politique Achille Bembe.
Monsieur Zuma et l'ANC en sortent substantiellement affaibli. C'est tout à fait sans précédent dans l'histoire de l'Afrique du Sud post-apartheid. Parce qu'au fond, l'ANC a choisi la voie de la survie et a refusé de sacrifier M. Zuma sur l'autel de la nation. C'est au fond, au début de la grande campagne électorale de 2019, qui risque de déboucher si rien n'est fait sur la défaite du vieux mouvement Libération et son éjection du pouvoir.
Est-ce que l'échec de cette motion de défiance renforce implicitement les décisions controversées de Jacob Zuma?
Non. Ce qui est apparu, c'est que la victoire de M. Zuma est une victoire à la Pyrrhus. L'ANC a étalé devant la nation sud-africaine les profondes divisions dont elle est affligée depuis plusieurs années déjà et qui avaient déjà abouti, ne l'oublions pas, déjà à la fondation de CO, à la fondation de l'IFF de Julius Malema, à ces espèces de petites scissions. Et au moment où nous parlons, il y a une faction réformiste très forte à l'intérieur du parti qui risque de s'en aller au cas où le cas Zuma n'est pas proprement réglé. Et donc, consacre au fond le début des hostilités. Ce n'est pas la fin du tout.
C'était la quatrième motion de défiance. Est-ce qu'on peut dire que M. Zuma est désormais rassuré de terminer son mandat?
Non. M. Zuma est une vieille casserole qui traîne énormément de scandales. C'est peut-être la dernière motion de défiance au Parlement. Mais il n'y a pas que le Parlement. Il y a d'autres épreuves qui l'attendent devant les tribunaux, devant le Conseil constitutionnel, par exemple. Ce n'est pas du tout la fin de ses tourments. Et cela ne m'étonnerait absolument pas si M. Zuma devait être congédié par son parti lui-même d'ici la fin de l'année.
Pour vous, est-ce que l'ANC a mal joué?
Mais ils n'avaient pas le choix. Ils se sont laissés piéger. L'opposition a très bien joué, choisir d'aller avec Zuma et donc sacrifier la nation ou sacrifier Zuma et choisir la nation. C'était l'alternative qui leur était posée. De deux côtés, ils perdaient. L'ANC écrit victoire. Mais tout le monde en Afrique du Sud sait très bien que c'est une victoire pour une bataille, mais pas le fond de la guerre.
L'analyste Achille Mbembe joint en Afrique du Sud.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, la grève du personnel du gouvernement provincial du Sud Kivu et des agents de la régie financière des PMER se durcit. Ils revendiquent 8 à 12 mois de salaire impayé. Lundi, le camp des grévistes a rencontré le président de l'Assemblée provinciale pour tenter de trouver une issue favorable à leur demande. Les détails avec notre correspondant à Bukavu, Ernest Muhero.
C'est depuis le début du mois d'août que ce mouvement de grève a commencé timidement, mais au fur et à mesure, telle une boule de neige, elle s'est durcie au point de drainer non seulement le personnel politique, administratif, ouvrier et travailleur du gouvernorat du Sud Kivu, mais aussi les agents des ministères provinciaux et services rattachés au centre des revendications, environ 8 à 12 mois de salaire impayé. Le conseiller en matière économique et d'investissement au cabinet du gouverneur du Sud Kivu, Eli Abibou.
Quelqu'un qui fait 12 mois sans avoir son salaire, vous comprenez que c'est déjà un mort. Et pourquoi j'ai appelé ça un crime d'État, puisque tout simplement, vous savez que c'est votre salaire qui vous assure votre sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire. Et il y a des gens qui n'ont pas payé la dernière tranche de frais scolaires pour leurs enfants. Quand vous réalisez 12 mois d'un paiement, c'est que les gens, non seulement ils sont clochardisés, mais ils vivent, n'est-ce pas, des dettes.
Christian Wandouma, personnel politique au sein du cabinet du gouverneur.
Qu'on nous paye. Ça fait 3 mois et au cabinet et dans le ministère, il n'y a même pas de stylo, il n'y a même pas de papier. Ça, c'est grave. Plus de 885 agents. Comment vivent tous ces personnels-là? Nous avons besoin de notre argent.
Du côté de la régie financière qui mobilise et encadre les recettes au sud qui vaut la DPMR, les agents trouvent inacceptable qu'ils aient 8 mois de salaire impayé alors qu'ils constituent la cheville ouvrière dans la mobilisation des recettes. Richard Chirosa, vérificateur des impôts à la DPMR, sort les statistiques récentes et en appelle à l'intervention des autorités nationales pour décompter la crise.
On revendique parce que normalement on connaît nos réalisations et on est surpris de voir qu'après ces dernières, on peut ne pas être payé. Je vais vous donner à titre illustratif le recette du mois de mai et le mois de juin. Pendant les 2 mois là, nous venions d'encaisser plus de 1 500 000 dollars. Mais est-ce que vous vous imaginez qu'à 1 500 000 dollars, il n'y a rien qui est fait en province, mais que les agents ne sont pas aussi payés?
C'est lundi, dans une rencontre avec le président de l'Assemblée provinciale du Sud, Kivu, Émile Baléké, les grévistes ont exposé leurs problèmes. Le président Baléké a promis une rencontre le mercredi prochain entre le gouverneur intérimaire, le gréviste, l'ordonnateur des dépenses provinciales, le directeur de la DPMR, le comptable public provincial de recettes pour tenter d'y voir plus clair. Nous apprenons par ailleurs que certains cabinets des ministres observent tout de même un service minimum et que parallèlement à la DPMR, les taxes et redevances sont quand même perçues. Mais pour quelle destination s'interroge plus d'un observateur? Ernest Mouroubou, VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Au Togo, plus de 1000 délégués des États-Unis et du pays et des pays africains éligibles à l'AGOA participent à Lomé à la 16e conférence de l'African Growth and Opportunity Act. Le forum vise à renforcer les échanges commerciaux entre les partenaires en vue de promouvoir le développement sur le continent. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Le 16e forum AGOA a débuté ce 8 août à Lomé avec la rencontre du secteur privé et celle de la société civile. Les organisations de la société civile des 38 pays africains éligibles sous cette loi américaine veulent saisir les opportunités qu'offre AGOA pour créer de l'emploi. Fred Oladende, président de la Fondation pour la démocratie en Afrique, membre du sous-comité société civile AGOA 2017.
On a besoin de 20 millions de nouveaux emplois chaque année en Afrique. L'AGOA peut nous aider à en créer, mais pas tous. Nous avons une opportunité d'utiliser l'AGOA pour que nos jeunes ne s'aventurent pas vers l'immigration.
Créer des jobs so that our children, our youth, do not have to go through dangerous adventure of migration.
Tout comme la société civile, le secteur privé compte tirer profit de l'AGOA en allant à la conquête du marché américain. Bandougou Traoré du Mali est exposant à la fois AGOA.
Bon, l'AGOA, je suis venu quand même avec mes objets pour venir montrer ça aux gens qui viennent ici pour la visite. Puis je vais les partenaires aussi. On fait du perles en bois, on fait du perles avec du pot aussi. Donc on fait du bois du croc, comment dire ça, le pot en crocodile. Du serpent et puis beaucoup de trucs aussi, ce qui concerne le pourquoi.
Pour le responsable du bureau Afrique au département d'État américain, l'AGOA est un partenariat gagnant-gagnant et c'est ce qui fait l'essence même de cette loi sur la croissance et les opportunités de développement économique en Afrique. Peter Bellerin de la délégation américaine au forum AGOA 2017.
Notre premier but ici, en venant pour le forum AGOA, c'est d'accroître les échanges commerciaux et l'investissement dans les deux directions, voire la diversification des produits africains pour vendre ces produits aux États-Unis.
Du 8 au 10 août, le Togo accueille le forum AGOA sous le thème « Les États-Unis et l'Afrique, un partenariat pour la prospérité à travers le commerce ». En 2016, le taux d'exportation du Togo sous AGOA est de 1,23%, une statistique que veut améliorer Lomé en misant sur le textile, l'artisanat, l'industrie minière et l'agroalimentaire. Kyle Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Plein feu sur le forum de l'AGOA qui se tient cette semaine à Lomé. L'AGOA, c'est cette loi américaine sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique. Quelle importance revêt-elle dans les relations commerciales américano-africaines? Qui en tire vraiment profit? Pourquoi fait-elle toujours l'objet de critiques? Des changements sont-ils prévus sous la nouvelle administration américaine? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Pèlerinage à la Mecque. Chaque année, des centaines de milliers de musulmans du monde entier se rencontrent en Terre Sainte afin d'accomplir le Hajj, un des piliers de l'islam. Notre correspondant Sidiki Barrow nous parle ici de l'étape de Médine où il s'est entretenu avec des pèlerins ivoiriens et maliens.
L'aéroport international Ibn Abdulaziz ne désemplit plus. Un balai incessant d'avions atterrissent avec à bord des pèlerins venus de tout le monde entier. Voyage épuisant certes, mais très exaltant, comme le confessent ces pèlerins venus de divers horizons à qui nous avons tendu notre micro.
Je suis Diara Soubadia Karidia de Pougon. Et le parcours, je l'ai passé franchement avec beaucoup d'appréhension alors que ça s'est bien passé. Au départ, je m'inquiétais, mais je suis Diara.
Malamine Haïdara, je suis de Bamako, des quartiers de Ravella. Vraiment, nous avons accueilli vraiment dans les bonnes conditions, franchement dit.
Après les formalités de l'aéroport, le logement est la préoccupation majeure des pèlerins. Les autorités de plusieurs États ouest-africains, tels que la Côte d'Ivoire et le Mali, s'investissent afin de garantir à leurs ressortissants les meilleures conditions d'hébergement. Car l'un des défis majeurs consiste à trouver des logements autour de la mosquée Al-Haram.
Lieutenant-colonel Fofana Mamadou Norosote Ousmane. Voilà, le voyage s'est passé dans de très bonnes conditions. Nous sommes arrivés et maintenant nous sommes à l'hôtel cherchant à nous faire loger. Le cadre est très beau. J'ai pu lorgner du côté de la mosquée du prophète. Ça augmente ma foi.
Moustapha Sibi, je viens du Mali, dans le cercle de Kita. Depuis qu'on est venu ici, tout va bien. On n'est pas loin de la mosquée. Alhamdoulilah, tout ce qu'on veut voir ici, parce qu'on a tout vu. Nos dirigeants nous dirigent dans les bonnes conditions.
Pour l'étape de Médine, les communautés ivoiriennes et maliennes disent être satisfaites.
Bané Abdullah, je suis satisfait, tout est bien, l'organisation, tout l'accueil, bon, tout est bien.
Yaya Traoré, de Sigasso. Bon, effectivement, on a bien arrivé, on a bien hébergé aussi. Bon, il n'y a pas aucun problème. Bon, notre logement et la mosquée, c'est pas loin. Quelque part seulement, bon, on peut arriver à la mosquée facilement. Depuis qu'on est arrivé, on peut faire les 5 prières régulièrement. Effectivement, on est à l'aise.
La vie de Médine ne fait pas partie des rituels du Hajj. C'est surtout une étape consacrée à la visite des lieux saints tels que la mosquée Al-Haram, la mosquée où repose le prophète de l'islam et certains de ses fidèles compagnons. Sidiki Barrow, Médine pour VOA Afrique.
Vous êtes croyant, animiste ou athée? VOA Afrique vous accorde une tribune dans Dialogue des religions pour parler de la religion, de la vie et de la société. Vous ne penserez jamais tous de la même façon, vous ne verrez qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Vivre, c'est aussi un privilège, un cadeau à protéger. Retrouvez donc Eric Manirakiza tous les mercredis et dimanches à partir de 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com. Sans oublier la page Facebook, laissez-nous vos numéros et partagez vos commentaires ou témoignages. Mais n'oubliez pas, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu meilleur que vous l'avez trouvé. Bienvenue au Dialogue des religions.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram, Instagram et Facebook, tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albeson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.